Bernadette, bonjour.
Oui, bonjour, Père Mathieu. C'est une joie de vous entendre.
Une joie d'être en régie à votre service. Voilà. Nous sommes heureux de vous retrouver pour votre émission Les Martyrs d'aujourd'hui. Eh bien, je vous laisse la parole, Bernadette. Merci pour ce beau service que vous
Merci,
faites
Père.
au service des auditeurs.
Merci. Alors, chers auditeurs de Radio Maria, bonjour, alors bienvenue hein, pour cette deuxième partie sur le Père Jerzy Popiełuszko, prêtre et martyr polonais. Alors, nous sommes en 1981. Le Père Popiełuszko a 33 ans. Cela fait 8 ans qu'il a été ordonné prêtre par le cardinal Wyszyński. La situation en Pologne devient de plus en plus critique. Les injustices sociales très nombreuses entraînent des grèves dans tout le pays. Et voilà que le 31 août 81, les 10 000 ouvriers des sidérurgies de Varsovie qui occupent leur usine jour et nuit depuis 3 jours réclament un prêtre pour célébrer une messe. C'est une première complètement ahurissante, vous comprenez bien, dans cette Pologne communiste. Alors, l'évêché contacte le père Jerzy Popiełuszko, ce jeune prêtre ouvert, chaleureux, qui accepte l'invitation spontanément, comme il a coutume de le faire. Mais avec un peu d'appréhension, parce que le monde ouvrier est un milieu qu'il ne connaît pas. Jusqu'à présent, il a été vicaire de paroisse, catéchiste de jeunes, aumônier des étudiants, membre de la pastorale de la santé, mais le monde des ouvriers lui est méconnu. Alors il a le trac. Comme on peut le lire dans ses notes, il se demande comment on va l'accueillir, est-ce qu'il va y avoir un endroit pour dire la messe, qui est-ce qui va faire les lectures, etc., etc. Il a peur, mais quand il se rend à l'usine et quand il rencontre les ouvriers, eh bien, c'est un accueil tout autre qui lui est réservé. Ce ne sont que des sourires et des applaudissements qui l'étonnent. Il se retourne même pour voir s'il n'y a pas une personnalité derrière lui qu'on est en train d'applaudir. Cette appréhension du début, eh bien, se transforme ensuite en joie quand il voit que les ouvriers veulent se confesser avant la messe. Et cette joie grandit encore quand il entend ces voix d'hommes qui répondent et qui chantent pendant la messe. Alors, il était venu pour célébrer une messe le matin, eh bien, il va en célébrer une autre le soir pour tous ceux qui n'ont pas pu y participer. Et cette présence qui ne devait être qu'occasionnelle devient un accompagnement régulier. Alors, son humilité, sa bonté, son authenticité font que ben, rapidement, il touche les cœurs des ouvriers et que de fil en aiguille, il revient plusieurs fois par semaine à la scierie, tout en restant bien à sa place de prêtre. Alors, il va célébrer des baptêmes, des mariages, mais ce qui fait sa plus grande joie, ce sont les retours à l'église, les transformations intérieures grâce aux confessions. Il invite ensuite les ouvriers à venir à la messe du dimanche, puis, comme il sait bien le faire, à venir prendre le thé chez lui après la messe. Une attitude que ces travailleurs n'avaient jamais vue chez un prêtre jusque-là. Il leur organise des cours sur la doctrine sociale de l'Église, sur l'histoire de la Pologne. Il fait même venir des conférenciers. Et il soutient également le syndicat chrétien Solidarnosc, qui vient d'être fondé. Alors, il le soutient en observateur bien attentif de ce qui se passe dans le pays, mais sans faire de politique. Lui, il suit l'enseignement du pape Jean-Paul II, son cher pape Jean-Paul II, son principal point de repère, et d'ailleurs il le cite souvent dans ses homélies. En avril 81, il est nommé aumônier des sidérurgistes. Une nouvelle page de sa vie a été tournée. Un mois plus tard, mois de mai, deux événements le touchent profondément. D'abord, l'attentat manqué, certes, mais l'attentat quand même du 13 mai contre le pape. Puis, 15 jours plus tard, le décès du cardinal Wyszyński, son deuxième guide spirituel. Alors, il se sent un peu perdu, seul, sans point d'appui. Pour les obsèques du cardinal, Il est nommé responsable du service médical, car on attend plusieurs centaines de milliers de personnes. Et pour cela, il va se faire aider des étudiants en médecine, auxquels il associe des sidérurgistes pour assurer le service d'ordre. Les mois passent, il accumule les responsabilités pastorales dans le diocèse, et ce, malgré une santé qui est toujours très fragile. Arrive le 13 décembre 81, une date vraiment triste dans l'histoire de la Pologne, parce que ce jour-là, le général Jaruzelski proclame la loi martiale, c'est-à-dire l'état de guerre dans tout le pays. Et à minuit déjà, des milliers d'arrestations ont lieu, des milliers d'activistes de Solidarnosc sont jetés en prison. Un couvre-feu est imposé entre 22h et 6h du matin. Les jours suivants, les chars occupent la ville, la milice armée lourdement sème la terreur, toutes manifestations ou velléités de grève sont dispersées brutalement dans le sang. Bref, la violence règne partout. Lech Wałęsa et d'autres dirigeants de Solidarnosc sont emprisonnés, les usines, les universités et même les domiciles privés sont l'objet de visites intrusives et il y a même une intrusion dans l'église Saint-Stanislas-Kotska où le père Jerzy est en train de confesser pour s'emparer du prêtre. Mais ce n'est pas encore son heure et il va réussir à leur échapper. Le père Popieluszko, donc, est bien conscient du danger. Il se sait condamné, mais au lieu de se préoccuper de sa sécurité, il continue à assumer ses responsabilités et à prodiguer son aide partout où on a besoin de lui. Et avec l'état de guerre, la situation du pays est particulièrement déplorable. Dans les magasins, on ne trouve plus grand-chose, l'alimentation est rationnée, les gens manquent de tout et dépendent beaucoup des colis que l'Église reçoit et que le père Jerzy redistribue. Et c'est comme ça qu'il voit passer chez lui beaucoup de gens qui viennent frapper à sa porte jour et nuit pour recevoir qui un vêtement, qui un médicament ou le sacrement de la confession. Le père est toujours disponible, toujours souriant, leur prépare même le thé. Enfin, il donne tout, ne garde rien pour lui. Et c'est comme ça qu'un jour, une petite anecdote, une religieuse trouve dans un colis qui vient de France un pull qu'elle s'empresse d'offrir avec joie au père Jerzy. Tout souriant, il l'accepte, le met, la remercie. Et puis quelques heures plus tard, la religieuse est déçue parce qu'elle s'aperçoit qu'il ne le porte plus. Il l'a offert à quelqu'un qui en avait plus besoin que lui. C'est pareil pour les chaussures. Alors, il est connu pour n'avoir que des chaussures très usées. Or, dans les colis, il y a toujours une paire qui pourrait lui aller. Mais il prétexte qu'elles sont ou trop grandes, ou trop serrées, ou trop petites, et pour pouvoir les donner, bien sûr. Le 24 décembre de cette année 81, un hiver particulièrement froid, veille de Noël, alors comme chaque année, le père Bokuki, le curé de la paroisse de Saint-Stanislas-Kotska, réunit tous les prêtres de sa paroisse pour partager le repas traditionnel de Noël, de la veillée de Noël. Le père Jerzy, bien sûr, est présent, mais voilà que tout à coup, il se lève, sans rien dire à personne, prend une poignée d'oplatek, alors c'est une sorte de pain azim que les Polonais partagent en famille à cette occasion, en échangeant leurs vœux. Alors, il prend donc sa poignée d'oplatek et part en direction du poste militaire qui se trouvait sur le trottoir d'en face pour offrir cette oplatek aux soldats. Comme cette année, il fait particulièrement froid, je vous l'ai dit, le lendemain, le jour de Noël, il n'hésite pas non plus à demander en pleine homélie à ses paroissiens de porter des plats chauds aux soldats ou bien de leur servir un café. Voilà, il était comme ça. Pendant cette période plus que difficile d'état de guerre, le père Popieluszko va renouer également avec la tradition des prières pour la patrie en célébrant chaque dernier dimanche du mois à 19h une messe pour la patrie. Or, ces messes vont être diffusées dans toute la Pologne via Radio Free Europe. Et de mois en mois, les fidèles vont être de plus en plus nombreux, si bien que l'église Saint-Stanislas devient vite trop petite. Il faut célébrer la messe sur un balcon au-dessus du porche d'entrée de l'église, devant une place noire de monde. Et ces messes vont porter beaucoup de fruits. Elles vont être l'occasion de nombreuses conversions. Dans les homélies qu'il prononce, il se fait la voix de son peuple opprimé, en disant par exemple en février 82, « L'Église se place toujours du côté de ceux qui sont privés de liberté, de ceux dont on a brisé la conscience. Car privé de liberté, a brisé la conscience. Un peu plus loin, notre douleur est celle de la nation tout entière terrorisée par la force militaire. » Des paroles courageuses et bien claires. Encore une petite parole. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui brisent les consciences humaines, ce qui est pire encore que de tuer. Il parle de liberté, de vérité, de la dignité de l'homme qui est bafoué et du pardon qui ne peut se faire qu'au prix de ce retour à la vérité. Car, dit-il, la vérité est seulement la vérité et la première condition de la confiance. Il dit la vérité qui gêne les communistes, mais il la dit toujours selon l'Évangile, sans connotation politique. Il parle vraiment de ce que les gens vivent au quotidien dans leurs soucis, de leurs souffrances. Et si bien que chacun de ceux qui l'écoutent, eh bien, pense qu'il s'adresse directement à lui. Mais il sait également être exigeant vis-à-vis de ceux qui l'écoutent. Il les appelle à prendre leur part de responsabilité, à surmonter leur peur, à faire l'effort moral. Je le cite. Les paroles de la vérité, la vie dans la vérité, peuvent comporter un risque. Le problème essentiel pour la libération de l'homme et de la nation est de surmonter la peur. La seule peur dont il convient d'avoir est de trahir le Christ pour quelques pièces d'une paix stérile. Bien sûr, il sait que le gouvernement n'apprécie pas tout cela. Et il sait, comme il l'écrit dans ses notes ce jour, qu'il peut être interné dans un camp ou être arrêté. Mais, comme il le dit, je ne peux cesser cette activité car il s'agit d'un service à l'Église et à la patrie. Alors c'est alors qu'il commence à recevoir des lettres anonymes avec des insultes, des menaces de mort. La police de sécurité de l'État le suit partout, son téléphone est mis sur écoute. Et à partir de l'automne 82, le gouvernement commence à faire pression sur l'évêché pour que l'évêque le fasse taire en le changeant de paroisse. Comme si ça pouvait faire quelque chose. Hein. Le temps des persécutions a vraiment sonné pour lui. Il est victime de plusieurs provocations. Une nuit, par exemple, il est réveillé à 2h du matin par un coup de sonnette et aussitôt après, on jette une brique et une grenade par une de ses fenêtres. Et il avoue à ses amis d'ailleurs, je ne vivrai pas longtemps. Mais en même temps, il déclare dans une interview à la BBC, Jésus-Christ et ses apôtres ont donné leur vie pour proclamer la vérité de Dieu. Le rôle du prêtre est de proclamer la vérité, de souffrir pour la vérité, même s'il faut donner sa vie pour cela. Face aux diverses provocations, le père lance toujours des appels très clairs pour ne pas répondre par la violence ou la vengeance. Mais tous ces événements l'épuisent. Et on peut lire encore dans ses notes, « Je crois que j'ai atteint mes limites aussi bien physiques que psychiques. » Et seul le voyage qu'entreprend Jean-Paul II en juin 83 lui redonne des forces et la conviction que ce qu'il fait est juste et qu'il doit continuer. Aussi en septembre, il organise un pèlerinage à Częstochowa, le pèlerinage national de la Pologne, pour les ouvriers. Une idée qui lui est venue à la suite d'une rencontre avec Lech Wałęsa. Et ce sont 8 000 pèlerins qui viennent de tous les coins de Pologne par dizaines de cars prier Notre-Dame de Jasnagora. 8 000 pèlerins que le Père appelle à être fort en Jésus pour ne pas se laisser séduire par ceux qui veulent construire notre patrie sur ce qui est terrestre. J'ai cité ces paroles. Alors, fort, être fort en Jésus pour ne pas se laisser séduire par ceux qui veulent construire notre patrie sur ce qui est terrestre. Des paroles qui valent aussi et encore pour nous aujourd'hui. De retour de pèlerinage, à cause de son anémie qu'il ne soigne pas et du stress permanent, eh bien, il s'évanouit au presbytère et est conduit à l'hôpital. On lui décèle en plus une hépatite chronique. Remis debout, il ne prend même pas le temps du repos. Il reprend sa vie au rythme effréné, malgré les menaces de plus en plus précises autour de lui. Le 12 décembre 83, il subit un interrogatoire de plusieurs heures, suivi immédiatement d'une perquisition chez lui, où, bien sûr, la police découvre tout un arsenal d'armes et d'explosifs, des piles de tracts, des sacs d'encre d'impression. Une machination, bien sûr, montée de toutes pièces et bien soigneusement préméditée par la police, qui a même convoqué la télé pour un effet plus spectaculaire. Alors, c'est tellement gros que Popielusko se met à rire et dit « Messieurs, vous exagérez ». Mais malgré tout, il est arrêté, jeté en prison. Pas pour longtemps, on le libère le lendemain. Pour le soustraire au danger, son évêque, Mgr Glemp, qui a succédé à Zizinski, lui propose de partir à Rome pour de nouvelles études. Le père Popielusko lui répond que si c'est vraiment ce qu'il souhaite, il lui obéira, mais que pour sa part, il préfère rester. « Je me suis consacré, je ne me retirerai pas. Je n'ai plus peur, je suis prêt à tout. » Et les interrogatoires qui n'en finissent pas s'enchaînent. De même pour les persécutions. Un jour, on arrête sa voiture pendant plusieurs heures sans raison, rien que pour l'empêcher d'arriver à l'heure et de célébrer sa messe. Une autre fois, alors qu'il est encore en voiture, une voiture de la police d'État le roule si près de la sienne qu'elle lui arrache un rétroviseur. Son appartement au presbytère est plusieurs fois cambriolé. Le 13 octobre, il échappe encore, grâce à l'habileté de son chauffeur, à un attentat en voiture. Mais le 19 octobre, ses assassins vont avoir raison de lui. Au retour d'une visite pastorale à Bydgoszcz, à environ 160 km au nord-ouest de Varsovie, sa voiture est arrêtée par une voiture banalisée, soi-disant pour un contrôle routier. Aussitôt, le père est ligoté, bâillonné, jeté dans le coffre. Son chauffeur, lui, est menotté, mais va réussir à sauter du véhicule en marche et courir, donner l'alerte de l'enlèvement du père. À trois reprises, le père va essayer de se libérer, mais chaque fois, il sera frappé à nouveau, remis dans le coffre de la voiture et rejeté même inconscient dans le coffre de la voiture. Et à sa dernière tentative, les policiers lestent ses pieds d'un sac de pierre, au moins il ne bougera plus, attachent ses jambes repliées en arrière, lui mettent un nœud coulant autour du cou, rattachent chaque extrémité de la corde au pied, de sorte que s'il essayait de se redresser, la boucle se resserre autour de son cou et puis le jette dans la Vistule au niveau du barrage de Vloklavek. Voilà, il a 37 ans, c'était le 19 octobre 84. Et on ne retrouvera son corps que 11 jours plus tard. Et tellement amoché que les prêtres qui reçoivent ce corps ont du mal à l'identifier. Le 2 novembre 84, les frères et sœurs du père Popielusko sont présents, ainsi que ses parents, profondément meurtris, mais debout, comme Marie au pied de la croix. L'enterrement a lieu le 3 novembre à Varsovie, devant une foule immense qui a afflué dans le quartier de Zolibros, et qui était un quartier pourtant cerné par la police, mais tous comme libérés de leur peur. Ils sont venus rendre hommage à ce prêtre et ce martyr. Alors quand le pape Jean-Paul II apprend sa mort, il proclame que cette mort soit source de vie. Eh bien oui, beaucoup de belles choses ont tout de suite vu le jour. D'abord, le magnifique témoignage des parents du père Pompier Bousco qui ont pardonné aux assassins. « Ma plus grande joie, dira la maman, sera quand ces assassins se convertiront. » Ensuite, il y a tous les nombreux pèlerinages, le flot de pèlerins qui accourt dès le premier jour sur la tombe de Père Pompier Bousco pour le prier, pour le remercier, pour lui demander des grâces. Et puis, il y a toutes ces grâces qui continuent encore aujourd'hui, toutes ces grâces nombreuses de guérison, de conversion, de naissance de vocation sacerdotale, et sans parler de l'effondrement du régime communiste entre 88 et 91 en Europe. Alors personne n'aurait pu prévoir cela, surtout pas le gouvernement communiste qui, en le tuant, espérait le contraire. Voilà, je raccourcis un peu parce que je vois le temps qui passe. Alors, le pape Jean-Paul II, hein, son cher pape, comme il disait, est venu se recueillir sur sa tombe longuement le 14 juin 87. C'est lui qui a ouvert son procès en béatification. Et cette béatification a été approuvée par le pape Benoît XVI le 6 juin 2010 en présence de la maman du père Jerzy, qui s'est exclamée ce jour-là « La vie est belle !» Et oui, la vie est belle hein, quand elle est donnée comme ça, avec amour. Hein. Voilà, chers auditeurs, un aperçu hein, de la vie de ce grand témoin du Christ, hein, dont le mot d'ordre était « vaincre le mal par le bien hein, ». Peut-être un mot que nous pouvons garder comme enseignement aujourd'hui.
Magnifique.
Voilà,
magnifique.
Père Mathieu.
Merci beaucoup, très touchant.
Alors, la prière, je ne sais pas si j'ai le temps.
Oui, on termine par la prière en le remerciant, le priant vraiment. Parce que c'est vraiment d'actualité aussi. On termine par la prière avec joie. Merci Bernadette.
Seigneur, partout dans le monde, les chrétiens sont menacés, persécutés, signe de contradiction en raison de leur foi. Ils meurent pour toi qui es l'amour. Nous te prions pour eux. Accueille-les auprès de toi. Nous te confions aussi leurs persécuteurs. Que le sacrifice de tes martyrs, Seigneur, produisent beaucoup de conversions dans ton Église et dans le monde. Vierge Marie, Reine des martyrs, invoque pour nous l'esprit de force, qu'il éloigne de nous la peur, la honte, la lâcheté et la tiédeur, qu'il renouvelle notre foi et notre amour, afin que nous puissions témoigner en toutes circonstances et jusqu'au bout que Jésus-Christ est Seigneur. Amen.